Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Comme tous les jours, il m'accompagne dans ce studio pour vous faire du bien, pour prendre soin de votre santé à vous, hein, moi il s'en fiche. C'est le docteur Jimmy Mohamed, bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Non, je suis pas gentille, parfois vous me donnez quelques conseils, c'est vrai.
Parfois, gratuitement en plus, c'est ça que vous oubliez de dire, c'est surtout ça.
On ne racontons pas nos histoires. Allez, au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, nous allons faire un point sur le diabète. Nous sommes à quelques jours de la journée mondiale de sensibilisation sur cette pathologie. Et d'ailleurs, même si on parle du diabète, il y a en fait deux types. Et nous avons décidé de nous intéresser au moins fréquent, pour une fois, celui qui se déclenche surtout chez des patients jeunes, voire même des enfants, le diabète de type 1. Alors, connaît-on les causes de cette maladie du système immunitaire? Comment la prend-on en charge actuellement? Pour en parler, nous recevrons sur ce plateau le docteur Ghislaine Hochberg. Elle est endocrinologue et diabétologue à Paris. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien, place à un sujet un peu tabou, le prurite anal. En gros, quand ça démange, ça picote dans cette zone. Ne souriez pas, je vous vois déjà, c'est bien plus fréquent qu'on ne le pense. Eh bien, le docteur Jimmy Mohamed nous dira tout sur ce sujet si sensible. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle nous parlera du premier pas. Pourquoi dit-on le plus souvent que c'est à l'homme de se lancer en amour?
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, vous le savez très bien, c'est le vrai faux. Vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va démarrer par cette première question de Léa. On l'écoute.
Bonjour docteur, bonjour Mélanie. J'ai entendu dire qu'on ne faisait plus de points de suture sur le visage des enfants. Mais du coup, j'aimerais savoir ce qu'on fait à la place pour les recoudre. Merci beaucoup, au revoir.
Alors pour vous répondre Léa sur cette question très précise, on l'a transmise à un spécialiste, on écoute l'éclairage du docteur Gérald Franchi, il est chirurgien esthétique et plastique à l'hôpital Necker à Paris.
Alors c'est vrai et faux à la fois, il y a des cas de figure où les points de suture sont toujours nécessaires, parce que la plaie est trop large, la plaie est contuse, c'est-à-dire qu'il y a eu un écrasement des pores de la cicatrice, ou la plaie vient d'une morsure animale, notamment morsure de chien. Là, les sutures sont souvent nécessaires, et en tout cas un lavage nécessaire. Mais lorsque la plaie est nette, que c'est une cicatrice linéaire, c'est-à-dire droite, on peut effectivement remplacer dans de nombreux cas les fils par des bandelettes en tissu, qu'on appelle des leucostrips, qui sont extrêmement solides, qui résistent à la douche, et qui permettent en fait, avec une astuce technique, de rapprocher les berges sans point de suture. Donc c'est parfait parce que la cicatrice va être absolument fine et on n'aura pas la trace des petits fils de suture. Ça c'est le premier point. Deuxième aspect, c'est que ça évite, souvent il faut leur faire respirer un gaz pour les calmer, il faut faire une anesthésie locale, il faut beaucoup de personnel, etc. Donc c'est plus rapide, c'est moins agressif pour l'enfant, mais ça s'utilise aussi chez l'adulte.
Voilà, c'était le docteur Franchi au micro de Benjamin Lévesque. On va passer à la deuxième question, cette fois elle est pour vous Jimmy, vous l'écoutez bien. C'est Hugo qui nous l'a posée sur notre répondeur.
Bonjour Mélanie, j'ai un petit problème, j'ai eu le Covid il y a 3 semaines. Normalement c'est terminé, mais j'ai toujours mal à la tête, je me sens hyper faible. Du coup je prends des Doliprane tous les jours et je m'inquiète un peu parce que j'ai entendu dire que le Doliprane c'était pas très bon, grande quantité pour mon foie, pour tout ça. Est-ce que j'ai un risque de continuer à prendre du Doliprane tous les jours? Voilà, merci beaucoup.
Bon Jimmy, d'abord des maux de tête encore 3 semaines après la Covid, est-ce que c'est normal d'abord?
Alors oui et non, le Covid est une infection qui à la base touche les poumons mais qui en fait touche de nombreux organes dont le cerveau, et ceux qui ont eu la maladie savent très bien que vous avez des maux de tête pendant l'infection. On a terriblement mal à la tête. Ouais. Et en fait il y a une véritable atteinte neurologique du Covid, la première est celle que tout le monde connaît, c'est la perte du goût et de l'odorat. Et on a considéré comme quasiment normal de perdre ce goût et cet odorat comme si c'était un symptôme comme un autre.
Toi aussi, tu as perdu le goût et l'odorat. Ça,
or, quand même, c'est l'atteinte du bulbe olfactif, une zone dans votre cerveau qui fait que bah, y a une atteinte neurologique du virus. Mais ce n'est pas tout. On sait que vous avez un risque de convulsion, certaines crises d'épilepsie peuvent être déclenchées par le virus, mais aussi des choses beaucoup plus graves, comme un accident vasculaire cérébral, notamment chez des sujets jeunes, ça a été décrit, mais aussi ce qu'on appelle des encéphalopathies, c'est-à-dire une forme de méningite qui donne des symptômes neurologiques à type d'hallucination. Donc attention, le Covid n'est pas une maladie comme les autres.
Ça ne veut pas dire qu'il y a tout ça, on est d'accord.
Absolument pas, mais ça veut dire qu'il faut quand même être vigilant pour l'éviter. Si jamais vous avez des maux de tête qui passent avec le Doliprane, c'est pas très inquiétant. En revanche, si les maux de tête sont rebelles, ne passent pas malgré les antidouleurs, surtout pendant la phase aiguë de la maladie, je vous invite à consulter et à ne pas considérer que c'est normal. Si jamais votre médecin considère que c'est normal, eh bien on patientera. Mais oui, certains patients, pendant quelques semaines, vont avoir des maux de tête persistants, mais qui normalement sont bien soulagés par le Doliprane.
D'accord, toujours un avis médical. Jimmy, juste pour répondre quand même à sa question de manière un tout petit peu plus précise, il demandait si c'était grave d'avoir à prendre du Doliprane pendant 3 semaines, tous les jours.
Tant qu'il respecte la posologie de 3 grammes par jour. Voilà, paracétamol, Doliprane, Efferalgan, Dafalgan, il y a différentes marques.
Vous êtes tous cités, comme ça on est tranquille.
Comme ça on n'a pas de problème. on respecte la dose de 3 grammes par jour pendant 2 à 3 semaines, ça ne pose pas de soucis. Surtout que tôt ou tard, ça va finir par se calmer. Et attention, on ne prend pas d'autres antalgiques sans avis médical. Et surtout, on ne rajoute pas de l'alcool ou d'autres toxiques qui vont faire souffrir votre foie. Mais oui, soulagez vos douleurs. Ne restez pas avec ces maux de tête, ça n'a aucun intérêt.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Hugo qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité sur ce plateau aujourd'hui pour le dossier du jour. Bonjour docteur Ghislaine Hochberg.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors vous êtes endocrinologue et diabétologue à Paris, vous êtes spécialiste en éducation thérapeutique, on verra juste après de quoi il s'agit précisément. On est à quelques jours là de la journée mondiale contre le diabète et à cette occasion, alors la journée mondiale je crois que c'est samedi, à cette occasion on s'est dit qu'on parlait trop souvent du diabète, alors qu'en réalité il y en a deux sortes, le diabète de type 1 et de type 2. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être déjà pour démarrer quelle est finalement la différence entre ces deux maladies?
Alors en fait, les deux maladies portent le même nom. Il y a le diabète de type 1 qui représente un diabète qui est insulinodépendant, c'est-à-dire on a besoin d'insuline pour vivre dès la déclaration de la maladie. Le diabète de type 2 est une maladie qui survient plutôt après 45 ans et dont au départ les règles hygiéno-diététiques peuvent suffire. Puis les antidiabétiques oraux, puis aujourd'hui, on sait qu'après 12 à 15 ans de diabète de type 2, probablement l'insuline sera aussi à démarrer.
Très bien.
Donc aujourd'hui, on va faire un focus sur le diabète de type 1. Vous l'avez dit, le diabète de type 2, c'est plutôt l'adulte d'âge un peu mûr. Et donc, ça veut dire que le diabète de type 1, on le découvre plutôt chez des jeunes enfants, des jeunes adolescents ?
Le diabète de type 1 est une maladie peu fréquente chez l'enfant, mais existe. C'est plutôt une maladie de l'adulte jeune. C'est-à-dire entre 18 et 30 ans.
Mais ça peut démarrer à 5 ans, à 4 ans aussi, hein, c'est ça hein ?
Tout à fait.
D'accord. Est-ce que c'est plus de, je sais pas, de jeunes garçons, de filles, ou est-ce qu'il n'y a pas de différence d'ailleurs du tout entre les sexes ?
Je crois que le sexe ratio est équivalent.
D'accord.
Jimmy. Et au final, on sait combien ça concerne, combien de patients en France, combien de diabétiques de type 1 ?
Alors, des diabétiques de type 1, tous âges confondus, c'est à peu près 400 000 diabétiques de type 1, alors que dans le diabète de type 2, c'est 4 millions.
400 000, c'est déjà quand même un bon nombre de patients. On disait que c'est plus rare, mais ça reste quelque chose d'assez important quand même. Je crois que le diabète de type 1, c'est une pathologie qui est en augmentation en France. Alors, on a justement Yolande hein, qui nous avait posé cette question-là sur notre répondeur. Elle demande, elle a son petit-fils qui est diabétique de type 1 depuis un an, elle nous disait sur ce message, et elle demandait pourquoi justement on parle de cette augmentation. Est-ce qu'on sait pourquoi ça augmente en France?
Alors, le diabète de type 1 de l'enfant, l'incidence est à peu près 15 pour 100 000. Alors aujourd'hui, on a des possibilités de très vite faire le diagnostic, de très vite orienter ces enfants jeunes qui vont mal avec une déshydratation, une polyurie, c'est-à-dire qui font beaucoup pipi, l'altération de l'état général, vers des centres qui vont le diagnostiquer rapidement et ils vont être pris en charge rapidement. Donc on pense que probablement il y a des facteurs environnementaux qui jouent.
C'est-à-dire quels facteurs environnementaux par exemple ?
Alors c'est tout le problème de l'épigénétique, le climat dans lequel on vit.
Les produits toxiques auxquels on est confronté peut-être.
Voilà. Ouais. Alors précisément un facteur, on ne sait pas, mais c'est l'ambiance générale.
De nos temps modernes, on va dire.
De nos temps modernes, voilà, merci.
Et on est d'accord que si jamais on ne traite pas un diabète, ça aura des conséquences sur notre santé. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi on s'expose ? Sans évidemment vouloir faire peur aux gens, mais c'est finalement donner une information claire.
Je crois qu'elle va nous
claire.
Faire peur quand même.
Non, mais voilà, je pense qu'il faut parfois dire les choses.
Alors, le diabète de type 1 est une maladie qui se déclare très brutalement. C'est un véritable orage dans la vie de la personne. Et à partir du jour où le diagnostic est fait, on a besoin d'insuline pour vivre.
Donc sans traitement,
sans traitement, ça peut être c'est le décès.
Ah oui, donc
voilà. Alors, il y a, comme on l'a dit, des formes qui démarrent plus lentement et qui, des fois, démarrent un peu comme un... C'est plutôt chez l'adulte, hein. C'est pas chez l'enfant.
Chez l'enfant, c'est souvent très brutal, on peut pas le louper, quoi. Enfin, on peut pas le louper. En tout cas,
ils vont très mal, très vite, avec des troubles de la conscience, une déshydratation.
D'accord. Mais chez l'adulte, ça peut démarrer un peu plus doucement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des adultes qui sont diagnostiqués parce que j'en sais rien, ils ont fait un bilan sanguin, ils ont été voir leur médecin parce qu'ils ne se sentaient pas trop bien. Et au détour de cette consultation ou de quelques examens, on va découvrir un diabète qui débute, quoi.
Alors, chez l'adulte, il y a des cas, mais ce n'est pas la majorité des cas, où même le diabète de type 1 peut démarrer lentement. Et il y a des fois des prises en charge comme un diabète de type 2 dans une première phase médicamenteuse. Et puis tout d'un coup, on voit qu'on augmente très très vite les médicaments, beaucoup plus que ce qu'on pensait, beaucoup plus que l'habituelle évolution de la maladie. Et dans ce cas-là, surtout si les sujets sont jeunes et minces, on va se reposer la question où ils vont peut-être être adressés à un diabétologue. On va se reposer la question sur l'étiologie, c'est-à-dire le type de maladie, et on va doser les anticorps du diabète qui signent le diabète de type 1.
Souvent, quand on parle de diabète, on pense au sucre, à juste titre, mais on pense que l'alimentation aurait un impact sur l'apparition d'un diabète de type 1 ou de type 2. Est-ce qu'un enfant ou un adolescent qui va consommer trop de boissons sucrées gazeuses, trop de fast-food, peut s'exposer à un diabète, ou finalement l'explication est peut-être ailleurs?
Alors, l'explication est sûrement ailleurs. Le diabète de type 1 est une maladie immunologique. Ça veut dire que ce sont des anticorps qui sont à l'origine de la maladie.
Il y a le système immunitaire qui déconne à un moment donné, hein, c'est ça?
Voilà, exactement. Et l'insuline est nécessaire pour traiter la maladie. Par contre, on sait que si on mange beaucoup avec un apport en glucides ou plus simplement en sucre important et qu'on n'adapte pas les doses d'insuline, on va avoir une élévation des glycémies et un déséquilibre plus facile de la maladie.
Si ce n'est pas l'alimentation en elle-même, parce qu'un enfant a mangé trop sucré, j'en sais rien, trop de soda, trop de gâteaux transformés, d'aliments transformés, etc. Est-ce qu'on connaît d'autres causes? Est-ce que, je ne sais pas, le diabète de type 1, ça pourrait être génétique? Il y a des grandes familles comme ça de diabétiques de type 1 ou pas forcément? Il y a des gènes, il n'y en a pas, je ne sais pas.
Alors, il y a certains gènes qui... dont des personnes, notamment par exemple les jumeaux homozygotes, peuvent être porteurs des mêmes gènes. Donc effectivement, on avait l'habitude de dire que les diabètes de type 1, c'était un cas isolé dans une famille parce que c'était la maladie immunologique qui se déclarait chez une seule personne. Or tous, on connaît des familles où les diabètes de type 1, il y a plusieurs membres de la famille atteints, et notamment dans les fratries, dans les jumeaux, etc. Mais ce n'est pas les formes les plus communes.
Vous dites que c'est une maladie du système immunitaire au départ. Est-ce que ça peut être peut-être la suite, je sais pas, d'une infection? On a été malade par un virus, j'en
Alors,
sais rien.
Il y a des virus qui ont été incriminés dans la destruction du pancréas, par exemple le virus
des oreillons.
Des oreillons.
Merci. On souffle un petit peu à deux en plus, c'est ça.
Voilà. Donc cela a été incriminé. Par exemple, le virus. Après, on peut aussi avoir des diabètes de type 1 accidentels avec une destruction du pancréas, une intervention chirurgie avec ablation complète du pancréas. Donc à ce moment-là, comme il n'y a plus de pancréas,
besoin d'insuline. Mais ça reste des causes plus rares, heureusement.
Très bien. Voilà. Docteur Hochberg, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau aujourd'hui, notre invité c'est vous, docteur Ghislaine Hochberg. Vous êtes endocrinologue et diabétologue à Paris. Vous êtes spécialiste en éducation thérapeutique. On va bientôt préciser ce que c'est justement l'éducation thérapeutique. On va passer à présent au diagnostic de cette maladie, le diabète de type 1. C'est notre thème du jour. Alors vous l'avez dit, c'est une maladie qui commence parfois dans l'enfance. En général, c'est le jeune adulte, mais faisons un petit point sur, arrêtons-nous sur les enfants. Justement, admettons à, je sais pas, 5 ans, 6 ans par exemple, quels sont les signes pour les parents, les grands-parents qui nous écoutent, qui doivent faire penser que peut-être cet enfant il a un diabète, un début de diabète qu'il faut consulter en urgence, du coup.
Alors c'est un enfant qui commence à aller mal, à être fatigué, à maigrir, à boire beaucoup, à beaucoup uriner et vraiment être fatigué et à plus du tout, alors que c'est un enfant habituellement dynamique, qui joue avec les amis.
On voit la différence, vraiment. Alors, les parents, ils se trompent pas là-dessus.
C'est du jour au lendemain et puis une perte de poids. importante, même si les enfants sont rondouillés, ils perdent quelques kilos
ça
en quelques jours.
Ça peut être 2-3 kilos rapidement.
Oui, ouais. Très très rapidement. Et donc c'est tout de suite un tableau inquiétant. Donc on les amène directement chez le médecin. Donc le pédiatre, le médecin généraliste sont le plus souvent les interlocuteurs ou les urgences des hôpitaux en fonction de l'état d'inquiétude de la famille.
Et du coup, lorsque vous avez un enfant ou même un adulte jeune chez qui vous suspectez un diabète de type 1, on va dire qu'il va plutôt bien, on va mettre de côté la phase où ils sont très graves et ils vont à l'hôpital, quel examen vous prescrivez pour confirmer le diagnostic ?
Alors, dans la série d'examens qui sont demandés, parce que c'est un état souvent très inquiétant, c'est le démarrage de cette pathologie, il faut qu'il y ait une glycémie, une glycémie.
Alors, c'est, qu'est-ce que c'est,
sang, hein, ouais. C'est une prise de sang.
Donc c'est le taux de sucre, la glycémie. Parce que ça, nous, ça nous parle tous les jours, mais la glycémie, c'est le taux de sucre qu'on fait au laboratoire. On ne peut pas faire un truc au bout du doigt, comme le font certains diabétiques, parce que parfois, les parents, c'est la réticence, c'est d'aller au laboratoire faire une prise de sang juste pour une glycémie. Est-ce qu'on ne peut pas se contenter d'un petit...
Alors, les spécialistes du diabète, beaucoup de médecins généralistes, je pense aussi certains pédiatres, ont un appareil pour permettre l'autosurveillance glycémique, c'est-à-dire une mesure de la glycémie au bout du doigt. C'est un appareil il faut utiliser des appareils professionnels de façon à pouvoir, à usage multiple et avec différents patients. On ne peut pas prendre n'importe quel appareil pour tester tout le monde. Et ça va donner une indication du taux de sucre. Bien sûr, si le taux de sucre est élevé, il n'y a que le laboratoire qui fait le diagnostic, mais on peut déjà diriger la personne. Le plus souvent, une forme caricaturale est prise en... à l'hôpital directement.
Il n'y a que cet examen-là, c'est l'examen de référence pour diagnostiquer,
on ne fait pas d'autres... Et puis, bien sûr, pour voir l'état d'urgence, on fait aussi une bandelette dans les urines et la présence d'acétone dans les urines est un signe de gravité et encore plus d'urgence à injecter de l'insuline.
Alors, vous disiez tout à l'heure, le plus fréquemment, ça apparaît chez le jeune adulte, ce diabète de type 1, encore plus fréquemment que chez les enfants, mais chez un adulte, justement, un peu plus âgé qu'un enfant, les signes sont les mêmes, un amaigrissement, pipi, beaucoup pipi, on a très soif, c'est ça aussi ?
On a très soif, on est très fatigué. La seule différence, c'est que peut-être que chez l'adulte jeune, le diagnostic peut être un peu plus long. C'est-à-dire que des fois, une semaine, 15 jours après la déclaration. Alors que chez l'enfant, c'est vraiment une grande urgence médicale.
Et justement, est-ce qu'il y a des situations où on arrive à faire le diagnostic avant qu'il y ait tous ces symptômes ? Parce que vous avez dit qu'on arrivait à les diagnostiquer un peu plus tôt, un peu plus... efficacement, qu'on n'a pas forcément plus de diabétiques, mais c'est juste qu'on les diagnostique plus rapidement. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour se dire, tiens, chez ce patient-là, on va faire une glycémie, c'est le hasard, c'est la chance, c'est...
Alors, dans les familles de diabétiques, il arrive fréquemment, même si l'usage d'un lecteur est personnel de glycémie, il arrive fréquemment qu'il y a un usage partagé et à l'occasion d'une fête de famille... Il y a le diabétique qui dit, si ça vous amuse, je vous teste tous.
Ah oui, c'est vrai, ça m'est arrivé, je crois, quand j'étais enfant. Il y avait un diabétique, on avait tous fait le bout du doigt.
Voilà, ouais. Ou une demande, lorsqu'on va voir son médecin généraliste, diabétologue ou pédiatre, d'une analyse pour un autre membre de la famille.
Et justement, d'ailleurs, qui gère le diabète ? C'est le généraliste ou il doit être aussi orienté vers un spécialiste ?
Alors, pour le diabète de type 1, c'est principalement les spécialistes ou hospitaliers ou de ville.
Donc, endocrinologue, diabétologue, hein, plutôt pour le suivi au long cours, parce que c'est pour la vie. Hein,
voilà, endocrinologue, diabétologue pour le diabète.
Quand on annonce son diagnostic de diabète de type 1 à des parents, par exemple, j'imagine que la réaction, elle ne doit pas être évidente. On vous dit, votre enfant, il a 5 ans, 6 ans, et il est parti pour une maladie. Dit ben, pour toujours, qui va demander plein de changements dans la vie. Qu'est-ce qui les inquiète le plus, les parents, au moment de ce diagnostic de diabète de type 1 chez leur petit ?
Alors, au moment du diagnostic de type 1, les parents, ils sont foudroyés. Et dans un premier temps, ils sont très inquiets, se demandent c'est la faute à qui ?
Ouais,
finalement.
C'est la faute à personne.
C'est la faute à personne. Et ça, c'est déjà un premier message. Le deuxième message, c'est est-ce qu'on va être capable ? Il y a des injections, il y a des autosurveillances glycémiques. Les hypoglycémies chez l'enfant, c'est-à-dire des taux de sucre très bas avec des signes neurologiques, psychoneurologiques, souvent sont très rapides dès qu'ils jouent au foot, dès qu'ils font des jeux.
Ça peut arriver aussi. Ouais.
Voilà, c'est ça. Donc, ils sont extrêmement inquiets d'être capable d'arriver à aider leur enfant et de prendre en charge la maladie. Parce que quand ils sont petits, c'est vraiment les parents et c'est élargi à tous les membres de la famille qui prennent en charge l'enfant le mercredi après-midi, le week-end, les vacances.
Et du coup, comment vivent les enfants, puisqu'on parle des parents, mais est-ce qu'ils ont conscience de la maladie? Je pense que c'est, évidemment, ça dépend de leur âge. Mais est-ce qu'ils ont le même stress que celui des parents?
Alors, quand ça arrive à un jeune âge, alors je suis plutôt diabétologue adulte, mais j'ai eu l'occasion de m'occuper de beaucoup d'enfants diabétiques de type 1 aussi. Je dirais ceux qui le prennent peut-être le plus mal dans un premier temps sont les parents. Ouais. Les enfants sont bien sûr sous le choc de l'annonce de la maladie.
Et à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à faire appel à des associations, je crois.
Alors, la sortie de l'hôpital, il y a pour les enfants l'association des jeunes diabétiques, des associations de patients qui ont le diabète. Pour les adultes, la Fédération française des diabétiques, qui sont là pour aider les patients, pour leur donner des pistes et des adresses qui peuvent leur être utiles, pour des conseils aussi téléphoniques. Et ils ont développé de nombreux supports. Et donc, il faut pas hésiter à les contacter pour, en dehors de l'équipe soignante avec qui les aide, avoir une autre aide plutôt patient.
Très bien, docteur Hochberg, on va faire une courte pause, on continue bien sûr cet entretien juste après.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec notre invité dans ce studio aujourd'hui, c'est vous, docteur Ghislaine Hochberg. Vous êtes diabétologue à Paris, vous êtes endocrinologue également et spécialiste en éducation thérapeutique. Alors, avec vous, on s'intéresse cet après-midi, on l'a dit, au diabète de type 1. Comment on les prend en charge dans les premières semaines, les premiers jours après le diagnostic? Il y a une période, je crois, que vous appelez la lune de miel. Expliquez-nous ce qu'on met en place dans cette période-là.
D'accord.
Et ça veut dire quoi cette lune de miel? Parce que ça a l'air sympa, mais je crois que quand même, c'est un début de maladie.
Voilà, alors le diabète de type 1 se déclare, comme on l'a vu tout à l'heure, de façon extrêmement brutale, avec des besoins en insuline et la nécessité de traiter immédiatement par insuline. L'insuline nécessite un système d'injection, soit des stylos insuline, soit d'autres systèmes plus autres qu'on peut mettre à disposition. Donc, au départ du diabète, donc, on traite en hospitalisation les patients, le plus souvent les patients en les mettant sous injection d'insuline. Et on sait, en tout cas chez l'adulte, que dans les semaines qui suivent la déclaration du diabète et la mise sous insuline, il y a ce que nous on appelle une lune de miel qui dure de quelques semaines, parfois quelques mois, mais jamais plus. Où il y a une grosse diminution des doses d'insuline et le patient...
On dirait que ça s'améliore, mais en fait...
Voilà, on dirait que ça s'améliore, ce qui facilite l'apprentissage du patient à se faire des injections d'insuline, à adapter ses doses d'insuline.
Mais il ne faut pas se leurrer, le diabète va bien s'installer.
Le diabète va se réaggraver de nouveau avec des besoins véritablement quotidiens importants en dose d'insuline. Enfin, donc, important, adapté pour chaque personne.
Donc, on a compris qu'on a besoin d'insuline sous forme d'injection. Vous avez dit qu'il existe des systèmes plus modernes pour dispenser de l'insuline, notamment, il existe des pompes à insuline. C'est-à-dire quoi? On délivre en continu une petite dose, justement, d'insuline pour éviter ces piqûres multiples quotidiennes?
Voilà. Alors, la plupart des diabétiques sont traités par injection d'insuline et un diabète de type 1 aujourd'hui.
C'est quoi 80% des patients qui font comme ça, des piqûres encore finalement?
Alors il y a à peu près 70 000 pompes sur 400 000 patients diabétiques de type 1.
Donc on voit qu'il y a encore pas mal de piqûres quand même.
Voilà, ça veut dire 25% à peu près, enfin de patients sous pompe, pas plus. En tout cas, moins de 20%.
Et pourquoi ça ne marche pas chez tout le monde, la pompe? D'ailleurs, alors, parce que nous, la pompe, ça paraît évident, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que la pompe à insuline?
Alors, la pompe à insuline, c'est un moyen d'injection d'insuline. Une pompe à insuline, c'est un matériel qui contient un réservoir d'insuline avec un moteur qui permet à qui on donne des instructions. Et ça permet de délivrer de l'insuline en continu pendant les 24 heures. Et au moment des repas, le patient va dire je mange à peu près un gros repas, un petit repas, je vous simplifie les choses. Et il va dire à la pompe j'ai besoin de telle quantité d'insuline pour que pas avoir une trop grosse élévation glycémique liée à mon repas.
On la met où? Ça fait quelle taille cette pompe?
Alors, il y a différents types de pompes. Les pompes les plus modernes, et c'est celles qui sont adoptées aujourd'hui le plus souvent quand les patients ont des petites doses d'insuline, c'est des pompes patch qui ont la taille d'une boîte d'allumettes.
Oh, ça, c'est bien, pompe patch, c'est pratique en plus.
Voilà,
j'imagine.
Qui se collent le plus souvent sur le bras ou une partie du corps. Et il y a juste un micro-cathéter qui va sous la peau.
D'accord.
Et c'est grâce à ce micro, ce tout petit cathéter.
Ça, c'est la plus moderne, la version la plus moderne et la plus facile, on va dire.
La plus facile. Et sinon, les pompes les plus classiques ont à peu près la taille d'une grosse boîte d'allumettes.
Donc on avait la petite boîte, là on a la grosse boîte d'allumettes. Jimmy, vous voyez.
Voilà, mais celles-là, elles ont un cathéter, c'est-à-dire comme un câble qui relie la pompe à la peau et qui fait et qui voilà qui
et là on la met dans, je sais pas, dans une banane ou dans un petit sac.
Alors il y a des systèmes voilà comme une banane ou comme un porte-monnaie qu'on accrocherait à sa ceinture qui contient la pompe.
Très bien.
Donc du coup il faut aussi contrôler, vous avez dit, sa glycémie, c'est-à-dire son taux de sucre. Est-ce qu'il existe des moyens plus modernes que de se piquer au bout du doigt? Parce qu'on comprend l'angoisse de devoir faire 4, 5, 6 contrôles de sucre quotidien toute sa vie.
Je crois au qu'il travail, existe, à l'école.
Ouais. Il existe des moyens un peu plus modernes
Alors,
de contrôler ça?
Alors, classiquement, on faisait une autosurveillance glycémique. C'est-à-dire le patient, tous les jours, faisait 4 à 6 contrôles glycémiques par jour pour contrôler sa glycémie et pouvoir régler ses insulines. Aujourd'hui, depuis 2-3 ans, on a un système par capteur, c'est-à-dire c'est un système où le patient va coller comme un timbre dermique sur la peau un capteur de glycémie et il va pouvoir passer soit un appareil, soit son téléphone devant.
Comme un code-barre à la caisse du supermarché, c'est ça? On passe le téléphone devant, clic, moi je l'ai vu faire, c'est génial.
C'est
ce
une
truc.
Révolution.
Ouais, et
voilà.
Donc on a la glycémie immédiatement affichée sur le téléphone.
Et ça dure 15 jours. Tous les 15 jours, il doit quand même changer ce capteur. Ça veut dire 2 capteurs par mois. Et on a la chance que c'est pris en charge maintenant par la Sécurité sociale pour les diabétiques de type 1.
D'accord.
Ou polyinsulinés.
Ça a dû bouleverser le quotidien des patients diabétiques de type 1, ce type de... Bah, toutes ces avancées, la pompe, on en a parlé au début, puis là, le lecteur intégré quasiment au bras a changé juste tous les 15 jours, mais on passe son téléphone devant, c'est hyper moderne, c'est hyper pratique.
Alors ça a bien amélioré la qualité de vie de nos patients. Ils sont très satisfaits. Je ne connais pas de patient qui est repassé en arrière vers le système avec le contrôle glycémique
au bout du doigt.
Mmh. Et en général, grâce à ces contrôles beaucoup plus fréquents, parce que là, ça ne fait pas du tout mal et c'est quand ils y pensent et quand ils ont envie, les patients peuvent mieux analyser leur glycémie et réagir en réglant leurs insulines.
Et avoir un meilleur contrôle, une maladie plus équilibrée, Jimmy.
Et du coup, est-ce que ça facilite aussi votre suivi, celui des médecins? Vous êtes mieux informés et du coup, est-ce qu'il y a vraiment un meilleur équilibre? Est-ce que l'équilibre des diabétiques qui ont ce genre de dispositif est plus important, puisque l'objectif à long terme, c'est d'éviter les complications?
Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. La première, on peut être mieux informé parce que le patient peut nous autoriser à avoir leurs données. Donc, il accepte de nous transférer les données ou pas. Ce qui permet qu'il nous passe un petit coup de fil, voire une téléconsultation, et on a sur notre ordinateur ses relevés des dernières semaines.
Oui, c'est pratique pour tout le monde.
Voilà, et en plus, ce lecteur donne une appréciation de l'hémoglobine glycosylée, qui est l'indicateur de l'équilibre glycémique des 2 à 3 derniers mois, que chaque patient doit faire en laboratoire une fois par trimestre.
D'accord. Et on ne pourrait pas imaginer à long terme, alors là je me projette dans le futur pour cette dernière question, je sais pas, une boucle fermée, c'est-à-dire une machine qui serait sur le bras, j'en sais rien, vous avez décrit les pompes, et qui fasse le boulot de la pompe et du lecteur qui à la fois calcule la glycémie et donne de l'insuline quand il faut pour que le patient finalement il n'ait plus grand-chose à faire.
Alors justement, c'est la voie de la recherche du diabète et c'est peut-être les traitements qu'on pourra proposer demain aux patients diabétiques et qui sont mis aujourd'hui, dans des centres hospitaliers universitaires, la plupart, voire des gros centres de diabétologie, qui sont proposés à des patients sous grande surveillance. Donc le système consiste à avoir une pompe à insuline, le capteur de glycémie et ou le téléphone qui va intégrer les données. Donc il y a des systèmes où il y a les 3
donc
appareils.
Donc c'est déjà en test, hein, tout ça, et peut-être que ça va se démocratiser dans les années à venir, c'est ça?
Voilà.
Donc encore de gros progrès à venir sûrement dans la prise en charge du diabète dans les prochaines années, c'est ça?
Voilà.
Très bien. Merci beaucoup, Dr Hochberg, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci pour cet éclairage sur le diabète de type 1. Merci.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi encore. Alors il est temps de passer à notre séquence, les bobos du quotidien, avec cette question, vous allez l'entendre, un petit peu tabou, mais pas pour nous évidemment, aucun sujet n'est tabou ici dans Sans Rendez-vous. Alors vous me demandez, j'en suis sûre, hein, de quoi je parle, on écoute tout de suite la question d'Amandine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Je viens d'avouer que j'aurais une petite question concernant les différentes maladies que, dont vous parlez, et j'aurais aimé en savoir plus sur l'une d'entre elles, notamment le prurit anal. En gros, comment ça apparaît, les symptômes, est-ce que c'est par rapport au fait qu'on aurait un problème d'hygiène corporelle, qu'est-ce qui permet de soulager ces démangeaisons? Donc je vous remercie de répondre à ces questions.
Jimmy, alors sujet un peu tabou, parce que nous on en a déjà entendu souvent parler évidemment, en spécialiste de la santé que je suis, en médecin que vous êtes, mais on entend souvent des gens qui viennent nous dire « Oui, c'est le cousin de ma mère, le frère de ma sœur qui a... Est-ce que tu connais éventuellement ?» Bon, alors Jimmy, le prurit anal, en gros, quand ça démange en bas, hein, au niveau de l'anus, mais je crois que c'est pas que ça, ça comprend un certain nombre de symptômes.
Oui, tout, vous saurez tout sur le prurit. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est que le prurit anal. Alors, c'est vrai que c'est des symptômes de démangeaison. Mais ça peut être lié à, ça peut être causé par plusieurs choses. Ça peut être des brûlures, de l'irritation, un écoulement, des suintements au niveau de la marge anale avec des matières fécales ou éventuellement du pu qui vont forcément vous donner ces sensations de démangeaison et donc ça va gratter au niveau de la marge
anale. Ça gratte, ça pique, ça coule, ça a l'air hyper sympa, Jimmy. Alors, c'est quelque chose, on imagine bien, vu tout ce que vous avez décrit, qui est assez gênant au quotidien. Mais est-ce que c'est justement, est-ce que ça démange tout le temps, le prurit anal? Parce que moi, je n'ai jamais eu ça, hein, donc je ne peux pas savoir. Est-ce que ça démange tout le temps ou est-ce que c'est quelque chose qui vient par, je sais pas, épisode, par intermittence? Comment ça se passe? Ça gratte tout le temps?
Mélanie Gomez, votre statut de patiente experte, à mon avis, aurait pu nous aider, mais vous êtes un peu timide aujourd'hui,
oui,
pas
sûr,
de problème, donc
connaissez.
Je vais remplir mon rôle de médecin. Alors, déjà, il faut savoir que ça touche 4 fois plus les hommes que les femmes,
ah, ben voilà.
Donc c'est une maladie
d'homme.
C'est
pour ça que vous connaissez bien le sujet, pas moi. On y va.
Exactement. Alors, le prurit peut toucher donc plutôt des hommes, et ça peut être toute la journée, ça peut être le soir ou la nuit, et l'horaire à laquelle vous avez ces démangeaisons a une importance parce que ça va orienter vers certaines causes. Et une fois sur deux, on n'a pas d'explication à ce prurit.
J'allais vous dire, Jimmy, mais quelles sont les causes? Mais si vous n'en savez rien, on n'est pas plus avancé. Bon, quelles sont les causes, Jimmy?
Déjà, le manque d'hygiène, hein, évidemment,
ah,
ça
même,
peut être
d'accord.
Une cause, parce qu'il ne vous a pas échappé que c'était une région particulière qui est très innervée.
Un peu humide, un peu... on va à la selle tous les jours, donc forcément. Voilà.
Oui, enfin, vous nettoyez quand même après la selle. Donc, en tout cas, c'est une zone qui est très riche en air. Et donc, comme elle est très innervée, elle est très sensible. Et donc, vous avez forcément. Vous allez être un peu gêné lorsqu'il y a une atteinte à cet endroit-là. Et puis, il y a des plis. Donc, ces plis peuvent donner lieu à de la macération. Et donc, vous pouvez avoir des souillures au
niveau... Essayez de le faire sans décrire trop, franchement. Vas-y, continue.
Non, mais j'ai préparé ça. En plus, au moment du déjeuner, il y avait des photos
très intéressantes.
Et donc, il peut y avoir des souillures au niveau anal, au niveau urologique. Donc, si vous avez des fuites urinaires, forcément, ça peut remonter dans le slip. Et puis, au niveau gynécologique, si vous avez des pertes, vaginal, ça peut aussi malheureusement.
Nous aussi, on
toucher,
est atteint par le stress ambiant, je crois, et on est très pipi caca. Je suis désolée si ça vous choque, évidemment. Alors, Jimmy, je crois que ça peut gratter, si ça peut démanger aussi au niveau de la marge anale, c'est parce qu'on peut avoir des vers, des oxyures.
Oui, l'oxyure, ça touche plutôt les enfants.
Ah oui, alors justement... là, c'est plus les petits. Alors.
Et eux, vous allez voir que ça va leur gratter essentiellement la nuit, puisque en fait, c'est lié au fait que la nuit, les oxyures, donc ces petits vers, vont pondre des œufs qui vont éclore et libérer une toxine au petit matin et durant la nuit. Et donc, ça gratte un peu plus la nuit quand on a ces vers.
Et donc, on dort mal.
Et donc, on dort pas très bien.
Jimmy, ça soigne comment rapidement? Est-ce qu'il y a des mesures peut-être hygiéno-diététiques?
Il faut traiter la cause dans un premier temps, puisque parfois, vous avez l'irritation qui va entraîner...
Des vers en vermifuge.
Exactement.
Vous avez vu, je pourrais presque être dans votre
docteur,
place. Hein.
Et vous le savez bien que quand ça irrite, ça gratte. Et si ça gratte, on va irriter. Et puis après,
ça
c'est un cercle vicieux,
ça
s'auto-entretient. Et puis, il faut avoir une hygiène irréprochable. Il y a des pathologies dermatologiques qui vont nécessiter des dermocorticoïdes et puis des causes proctologiques avec des fistules, des fissures anales qui vont être traitées par le gastro-entérologue. Donc, il faut traiter la cause et pas le symptôme, Mélanie.
Merci beaucoup, Jimmy, pour ces précisions plus que nécessaires.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et puis pour cette dernière séquence de l'émission, comme tous les jours, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on a un grand thème à vous proposer. On aimerait savoir qui doit faire le premier pas. Alors déjà, Lorsqu'on parle de premier pas, ça veut dire quoi en vrai? C'est qu'il doit embrasser, parler le premier. Enfin, ça veut dire tout un tas de choses, en fait.
Bien sûr, je crois que c'est déjà de signifier qu'on est intéressé par l'autre, qui va se dévoiler dans son désir. En fait, c'est ça. Alors après, où qu'on en soit, que ce soit au moment du baiser, au moment de se parler, au moment de faire l'amour, ou de se toucher, ou de s'inviter à, etc. Ça, c'est chaque histoire, effectivement.
Est-ce que vous faisiez le premier pas, Jimmy?
Je vous raconterai ma vie personnelle une autre fois. Mélanie, mais est-ce que ce premier pas n'est pas encore plus difficile en cette période, puisque à la fois on a peur de se prendre un râteau, mais aussi peut-être du côté des hommes, on a peur justement que ce soit mal interprété, que ce soit vécu comme une agression, même si évidemment voilà, on peut continuer de vivre.
Je connais des hommes célibataires
normale.
Qui m'ont confié ne plus jamais oser le faire, le premier pas,
oui,
en ce moment.
De peur d'être accusé, à tort ou à raison, je ne sais pas, d'harcèlement.
Alors ça, c'est sûr que c'est extrêmement compliqué, parce que nous sommes assez naturellement, on était sur une base de l'homme propose et la femme dispose, ce qui permettait d'ailleurs aux femmes de ne pas trop se révéler dans leur désir, parce qu'elles étaient inquiètes quant à leur désir, pensant que être animée d'un désir, c'est potentiellement être une femme de petite vertu, ce qui permettait donc aux hommes de leur faire la cour, plus ou moins élégamment, et c'est bien sûr là-dessus que se pose cette question de...
Et on aime toujours quand c'est élégamment, bien sûr. Hein.
Voilà, mais du coup, évidemment, comme il y avait un peu d'inélégance, il fallait savoir aussi qu'est-ce qui était considéré comme élégant et inélégant, que certaines pouvaient entendre dans quelque chose d'un peu sauvage, d'un peu... quelque chose d'assez agréable et excitant, quand d'autres y voient très légitimement une agression qui leur est faite. Donc évidemment, on ne va pas s'étendre là-dessus, on manquerait trop de temps de toute façon pour en parler joliment, mais effectivement se pose la question aujourd'hui pour les hommes de pouvoir se manifester dans le désir qu'ils pourraient avoir d'une femme sans être perçus comme étant un pervers, et une femme de pouvoir l'accueillir et répondre sans avoir le sentiment d'être l'objet, comme une proie, d'un chasseur impitoyable. Donc évidemment, ça pose maintenant la question de la possibilité pour les femmes, si elles ne veulent pas être harcelées, si les hommes n'osent plus, de pouvoir être plus tranquilles quant à l'expression de leur désir, pouvoir se mouvoir dans la société, c'est une chose, mais aussi dire « tu m'intéresses ». Ce qui reposera aussi la question, si on imagine que ce ne sont plus que les femmes qui font les premiers pas, ça reposera la question aussi, deviennent-elles des harceleuses quand elles s'adressent aux hommes ? Tant qu'il y a, de l'élégance, a priori pas, mais on n'est jamais dans la tête de l'autre, et savoir ce que ça raconte pour l'autre d'être sollicité sexuellement ou d'être sollicité en termes de désir, même si on n'est pas que dans l'acte sexuel, tout le monde n'est pas au rendez-vous de la capacité à entendre le désir de l'autre. Et c'est ça toute la difficulté du débat social sur cette notion de manifestation du désir. C'est pouvoir dire légitimement le désir qui est le sien. Pour autant, on ne sait pas ce qui est dans la tête de l'autre qui reçoit ce désir et qui se sent être objet de désir.
Alors, le premier pas, donc, que ce soit l'homme ou la femme qui le fasse, et on a toujours cette peur aussi de se prendre un râteau, malgré tout. C'est si douloureux que ça, c'est si difficile que ça pour certains de devoir prendre un refus en face.
Écoutez, notre orgueil est toujours au rendez-vous de tout ce qui peut nous remettre en question dans notre pouvoir. Et nous aimons l'idée d'être... gens de pouvoir. Et effectivement, un râteau, comme vous dites, c'est avoir loupé complètement, avoir été conçu comme étant pas légitime dans son expression. Et c'est une question simplement d'orgueil, parce que, convenons-en, ça fait quoi ? Ça change rien, on n'en meurt pas. Que, j'allais dire, le non, on l'a toujours dans la poche. Autant de proposer et risquer d'obtenir le oui.
Et ce n'est pas toujours aux hommes de faire ce premier pas, puisque tel qu'on l'a décrit, là, on a l'impression que l'homme propose et la femme dispose.
Non, ce n'est pas toujours à l'homme, bien sûr. Simplement,
une femme a le droit de le faire aussi.
Elle a le droit de le faire, et elle a le droit de le faire sans se sentir illégitime, sans être perçue comme étant illégitime et inconvenante. Et c'est ça toute la difficulté d'une société qui évolue et qui doit accueillir, parce que c'est ça le problème, c'est que le désir est une histoire perçue comme étant de l'ordre de la pulsion et de la sauvagerie, alors que l'acceptation, l'évaluation, là on passe par le crible du raisonnement, et donc comme si les hommes étaient donc par essence plus sauvages dans cette expression et les femmes plus réfléchies. Or, les femmes sont autant animées de désir et sont tout à fait libres d'exprimer
ce désir. Une femme qui fait
le
premier pas n'est pas une sauvage, ni
absolument pas.
Une dominatrice ou je ne sais quoi.
Absolument, de même qu'un homme n'est pas un pervers parce qu'il ferait ce premier pas, encore une fois, apprenant à communiquer les uns avec les autres avec élégance et respect mutuel.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël. Avec Historiquement Vôtre, ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie. Restez
bonjour
avec
Mélanie.
Nous. Historiquement Vôtre arrive. Stéphane m'a l'air particulièrement excité aujourd'hui.
Courage, fuyons Mathieu.
C'est ce que vous dites ?
Non, en fait, c'est le thème de Historiquement Vôtre aujourd'hui. C'est tous ceux qui se sont dépêchés de partir. Vous savez, Louis XVI, la fuite à Varennes.
Effectivement.
Marie
oui.
de Médicis qui a fui le château de Blois où son fils l'avait enfermé.
Et votre
et
copain.
Et vous avez. Bah, oui, le roi émérite, Juan Carlos d'Espagne.
Juan Carlos d'Espagne, vous connaissez bien.
Il s'est fait la belle.
Et il est aux Émirats Arabes Unis, le petit coquinou.
Merci messieurs, nous vous souhaitons une très bonne émission. Elle le sera comme tous les jours, j'en suis sûre. Et Jimmy va vous écouter, moi aussi. Restez sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.